Que le Seigneur soit béni. Nous aimons nous retrouver dans sa maison parce que nous avons besoin de nous retrouver. Nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Nous avons besoin de la communion fraternelle. Le Seigneur Jésus a posé une question. Un jour, il a posé cette question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire dans quel contexte Jésus a posé cette question? Il pose cette question alors qu'il vient de faire quoi? Une promesse. C'est quand même étonnant, c'est dans Luc 18, il enseigne sur la prière. Luc 18, il enseigne l'importance de persévérer. Est-ce que vous aimez persévérer? En tous les cas, c'est un commandement de persévérer dans la prière. Voilà, parce que le Seigneur, il connaît notre nature, il sait que parfois, on aurait tendance à relâchement. C'est pas vrai? Il faut toujours veiller, il faut veiller à ce soir. C'est écrit, c'est pas pour nous ennuyer, c'est écrit pour que justement, on ne se fasse pas piéger. Donc le Seigneur pose une question, il pose une question à l'Église, c'est à nous à répondre. Je sais pas si vous avez pris l'habitude de répondre aux questions que Dieu pose. Combien de questions y a-t-il dans la Bible? Combien Dieu pose des questions dans la Bible? Après vous, est-ce que quelqu'un peut me donner une idée? D'après vous, des centaines de questions sont posées dans la Bible. C'est Dieu qui les pose. Et la politesse fait que nous devrions répondre. Il pose une question, quand le Fils de l'homme, Luc 18, verset 8, viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous avez vu juste au verset 7, il fait une promesse. Par rapport aux situations douloureuses que l'on traverse, car sur la terre, on traverse des injustices. Est-ce que vous savez qu'il y a des injustices? Et Dieu, verset 7, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? C'est encore une question de plus que Jésus pose. Jésus dit, voilà, je vous dis que Dieu vous fera justice. Mais à cause de ces preuves, à cause de ce que l'on traverse, à cause de tout d'ailleurs, est-ce que Dieu trouvera la foi? Cet après-midi, que trouve-t-il dans nos cœurs? Nous sommes venus pourquoi? Nous sommes venus comment? Nous sommes venus dans quel but? Est-ce que nous sommes venus parce que c'est le jour du Seigneur? Nous aimons venir le louer parce qu'il réclame l'adoration des rachetés. C'est peut-être la raison pour laquelle vous venez. Vous venez peut-être pour plusieurs raisons, peut-être pour la communion fraternelle. Est-ce que c'est bien de retrouver des frères et sœurs? Eh bien oui, c'est un des piliers de l'Église primitive. Elle persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La foi, trouvera-t-il la foi? Jésus pose une question, c'est une question sérieuse, d'autant plus que ça concerne le jour où Jésus va revenir. C'est une question qui est posée, bien sûr, c'est une question intelligente. Toutes les questions que Dieu pose sont intelligentes. Nous, on peut poser des questions qui n'ont ni queue ni tête. Mais les questions du Seigneur sont toutes pour nous amener à réfléchir. Tiens, où en suis-je de cette foi que Dieu veut vivante? L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, il y a une seule foi. Quand on lit, quand on observe, quand on va dans certains endroits, on se rend compte qu'au niveau de la foi, il y a à boire et à manger. Mais en vérité, la Bible est catégorique, il y a une seule foi. La foi qui vient de la parole de Dieu, non pas de révélation mystique ou mystérieuse, la foi qui vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Il y a un texte qui me permet actuellement d'aider les croyants à avoir une foi saine. Une foi forte, quand on voit tous ces chrétiens qui sont dans la confusion, une fois ils sont sur les sommets de l'exaltation, le lendemain vous les voyez, ils sont dans la vallée du désespoir, une fois vous les voyez, ils sont exubérants, trois jours après vous les voyez, ils sont dans le malaise et dans la confusion. Tout ça, ça nous interpelle à nous serviteurs de Dieu, car je crois que Dieu veut que nous ayons une foi linéaire, une foi qui augmente, mais une foi qui rende un bon témoignage. L'apôtre Jean a écrit ceci, nous l'avons lu jeudi avec les frères, l'apôtre Jean a écrit quelque chose, moi, qui m'a beaucoup aidé. On va le lire, s'il vous plaît. Jean chapitre 20, verset 31, pourquoi ces choses ont-elles été écrites? Vous savez, j'aime à dire que Jésus aurait pu mourir sur le bois de la croix, et ressusciter et exprimer bien sûr son plan, sans que rien ne soit écrit dans la Bible. La Bible, elle pourrait faire 8 feuilles. Est-ce que vous y avez réfléchi à ça? Dieu aurait pu concentrer, comme vous voyez, comme l'Hébreu 11. On appelle l'Hébreu 11 le microcosme de la Bible, parce que toute la Bible est résumée dans le chapitre 11 des Hébreux. Mais toute la Bible pourrait être contenue en quelques lignes, non? Et Dieu nous a donné quand même un gros morceau. Vous ne trouvez pas? Pour certains, c'est pas assez. Moi, je trouve que tout ce qu'on avait besoin de savoir, c'est consigné. Et regardez ce qui est écrit dans Jean au chapitre 20, verset 31. Regardez bien. Mais ces choses, dans tout ce qui est écrit dans la Bible, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, premièrement, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voyez ? La vie, elle vient comment ? Cette foi vivante, cette espérance vivante, cet amour qui est vivant dans nos cœurs, comment viennent-ils ? Comment ces vertus se développent-elles ? Eh bien, vous avez lu ? Elles ont été écrites afin qu'en croyant ce qui est écrit, j'ai la vie. Et si les chrétiens se mettaient d'une manière très simple à croire ce qui est écrit, ils auraient la vie. Et le problème, c'est un problème de foi. Les gens doutent quand Dieu dit quelque chose, c'est sérieux. Quand Dieu pose une question, on devrait y répondre. Ou dire, tiens, mais où j'en suis? Est-ce que c'est écrit, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi? Eh oui, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la confiance. Parce que la foi est toujours synonyme de confiance. Je le répète et je le répéterai régulièrement. Parce que pour beaucoup de chrétiens, cette affaire de foi est parfois un petit peu difficile. Alors qu'en fin de compte, la foi, c'est la confiance. Heureux l'homme qui place sa confiance dans le Seigneur. Et il y a des gens qui ont fait confiance à Dieu. On va lire un texte, on va lire plusieurs. Et j'aimerais que vous méditiez ces textes. Parce que nous, les pasteurs, nous sommes parfois profondément peinés. Nous déposons cette peine au pied du Seigneur, car la Bible, là aussi, nous demande de nous décharger de tous nos fardeaux. Est-ce que c'est normal d'avoir de la peine? Vous êtes sûr? Est-ce que c'est écrit, à chaque jour suffit sa peine? Bon, est-ce que c'est normal d'avoir de la peine? Voilà. Vous voyez? C'est ça, c'est important. Mais Dieu nous demande de nous décharger de toutes nos peines. Est-ce que c'est normal de pleurer? Vous êtes sûr? Est-ce que c'est normal de pleurer? Est-ce qu'il y a un temps pour pleurer? Ben oui, on n'est pas des machines. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour être consolé, etc. J'aimerais lire avec vous un texte d'un homme qui a réagi pour que sa foi soit victorieuse. Car n'oublions pas que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, c'est-à-dire notre confiance. Et quand Jésus pose cette question, dans un contexte d'une femme qui a subi une injustice, on n'a pas lu la parabole, mais en fin de compte, c'est une pauvre femme qui a subi une injustice, mais quand même, elle connaît le droit, et elle va casser la tête au juge, je reprends l'expression biblique, jusqu'à ce qu'elle obtienne gain de cause. Et comme elle connaît la loi, elle sait qu'elle a droit à son gain, et elle va obtenir. Et Jésus dit, et vous? Est-ce que vous connaissez, justement, les promesses de la parole de Dieu? Il y a des choses dans la Bible qui sont pour nous et nous devons les obtenir. Regardez avec moi dans Romains au chapitre 4. Dans Romains au chapitre 4, on voit un homme qui attend depuis 25 ans. Ça commence à faire 25 ans? Ça dépend quel âge on a. Si on a 3 ans, comme il est, ça fait 25 ans, c'est beaucoup. Si on a 95 ans, ça fait peut-être un peu moins. Cet homme avait reçu une promesse. Romains chapitre 4, verset 19. Et il nous est indiqué au verset 19 que cet homme n'a pas faibli dans la foi. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Donc ça faisait 25 ans qu'il patientait. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dans le cœur d'Abraham, il y avait une pleine conviction. Le mot « plein » dans la parole de Dieu nous ramène toujours à une grande vérité biblique, celle d'être rempli. Vous savez qu'il est dit, soyez remplis du Saint-Esprit. On voit dans la Bible qu'il y a une pleine bénédiction, une pleine espérance. Là, il nous est parlé d'Abraham qui avait une pleine conviction. Ce n'était pas une conviction qui change en fonction des circonstances, en fonction des contacts que l'on a avec les gens. Il y a des chrétiens, s'ils discutent avec d'autres croyants qui sont tièdes, leur conviction s'étiole. Ah, s'ils discutent avec quelques chrétiens qui sont dans la foi, ça va un petit peu mieux. Dites-moi, est-ce que vous êtes influencé par les autres? C'est une vraie question. Est-ce que les autres vous influencent? Vous avez vu en politique ce qu'ils font dans les périodes d'élection? Ils font en sorte que le président sortant passe en dernier. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est souvent le dernier qui parle, qui a le plus influencé l'auditoire. Parce que les gens changent d'avis, comme on dit, comme on change de chemise. Un chrétien, il ne change pas d'avis au gré du comportement des gens. Un chrétien, il reste fidèle à ce que Dieu dit. Abraham a attendu pendant 25 ans. Dieu lui avait fait une promesse. Cette promesse, c'est vrai que ça commençait à faire long, parce qu'il avait 100 ans, bon, 100 ans, on peut se poser des questions, le corps de sa femme n'était plus en état d'avoir des enfants, elle avait été ménopausée, c'est ça que ça veut dire. Bon, on peut se dire quand même, ça commence à devenir délicat. Et il y a comme ça des moments dans la vie où on se dit, mais est-ce que Dieu va me bénir? Est-ce que Dieu peut bénir mon fils? Quand je regarde mon fils, il n'est pas en train de se convertir. Vous connaissez l'histoire de saint Augustin? Vous avez lu les livres de saint Augustin? C'est au IIIe siècle. Bon, c'est vrai que c'était un catholique romain, mais à l'époque, l'Église catholique n'était pas comme elle est aujourd'hui. Et il a écrit cet homme et sa mère. Moi, j'ai lu ce livre, c'est à lire, hein, c'est à voir. Bon, il y a quelques hérésies, mais dans l'ensemble, il y a énormément de bénédictions. Et ils habitaient dans un tout petit village en Italie. Et un jour, il a dit à sa mère, moi, je veux aller vivre à Rome. Rome, c'était une ville de perdition. Et sa mère n'a pas arrêté de pleurer, et c'est à Rome qu'il s'est converti. Vous voyez? Mais moi, je crois que nous avons un Dieu qui est tout-puissant. Même si les situations paraissent mourir, nous avons un Dieu qui est capable de changer le mal en bien. Et Abraham n'a pas faibli, même si les gens lui disaient, mais tu rêves Abraham, tu as un vrai problème, tu ne peux pas. Vous savez, nous, on arrive des fois à certains tournants, on peut penser que Dieu ne peut pas, ou que c'est trop tard, ou que c'est trop ceci. Moi, je crois que quand Dieu fait une promesse, il l'accomplit. C'est comme ça. Dieu, il fait des promesses, non pas pour nous faire rêver, Dieu, il fait des promesses parce qu'il a le pouvoir de les accomplir. Il n'a pas voulu faiblir. Et je voudrais vous encourager à avoir cette foi vivante, comme je le disais ce matin. Il n'y a quand même rien de plus beau qu'une église qui est un troupeau en bonne santé. Que les gens à l'extérieur veuillent entrer dans le troupeau ou qu'ils ne veuillent pas y entrer, que les gens veulent se convertir ou qu'ils ne veulent pas se convertir, et ainsi de suite, ça c'est autre chose, mais que nous ayons la joie d'être un troupeau en bonne santé qui rende un bon témoignage. Comment un troupeau peut-il rendre un bon témoignage si les croyants qui le composent sont toujours en train de douter, de remettre en question la parole de Dieu? Oui, vous me dites que Dieu m'aime, mais vous savez, moi je ne sais pas si Dieu m'aime. Moi, vous savez, je suis humble. C'est de l'humilité, ça? Je l'ai entendu, ça. Est-ce que c'est de l'humilité de dire, oh, mais moi, je suis trop minable pour que Dieu m'aime? C'est ça, l'humilité? Moi, je crois que l'humilité, ça consiste à croire ce que Dieu dit. Et si Dieu dit qu'il m'aime, il m'aime. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez, ça fait presque bien. Oh, moi, je vois rien. Mais de toute façon, on peut rendre tous le même témoignage, parce qu'on est à peu près tous pareils. Voilà. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais franchement, on le sait qu'on ne vaut rien. Mais je crois franchement que nous avons un Dieu, lui, qui vaut quelque chose. Et ce Dieu-là, il s'intéresse à nous. C'est ce que je disais l'autre jour, je crois, à Marignane. Dieu a dit, vous direz quel est mon nom. Quand on vous demandera quel est son nom, vous direz comment je m'appelle. Vous direz que je m'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà mon nom pour l'éternité. Le Dieu de Jacob, ça veut dire que Dieu peut être le Dieu de tout le monde. Voilà ce que ça veut dire. Et donc cet après-midi, vous pouvez dire, ah, ce Dieu que vous venez de célébrer, que vous venez de glorifier par vos cantiques, en prenant la Sainte Cène, vous avez mis en avant ce qu'il a institué avant de mourir sur le bois de la croix, ah, ce Dieu que vous vénérez, ce Dieu qui vous a sauvé, ce Dieu qui vous a fait tant de promesses, il peut devenir mon Dieu à moi? Eh bien oui. C'est pour ça que Dieu vous demande d'avoir une foi vivante. La foi, c'est je crois ce qui est écrit. On en a parlé ce matin. Quand un homme peut s'approprier le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Est-ce que cet après-midi, vous pouvez vous approprier le psaume 23? Est-ce que vous pouvez dire oui, Dieu est mon berger? Dieu est notre berger, bien sûr, quand c'est lui qui nous dirige. Il me dirige, il me conduit. Si c'est moi qui fais ce qu'il me plaît, c'est moi le berger, c'est moi mon propre berger. Je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît. Si je veux aller à l'église, je vais à l'église. Si je ne veux pas y aller, ne vous appropriez pas le psaume 23 si vous faites votre propre volonté. Soyez au moins sérieux à ce niveau-là. Si vous faites votre propre volonté, le psaume 23, il vous faut le rayer. Je suis peut-être un peu sévère, mais pour le moment, il vous faut le griller au crayon papier, en espérant qu'un jour, vous gommerez. Mais ne peuvent se préconiser du psaume 23 que ceux qui disent, moi, je veux faire la volonté du Seigneur. Je veux qu'il me dirige, je veux comprendre, je veux qu'il m'amène là où il veut m'amener. Est-ce que vous savez les chemins par lesquels Dieu va vous faire passer? Est-ce que Dieu sait où vous terminerez votre course? Est-ce que Dieu le sait? Où vous rendrez votre souffle? Pour être plus clair. Est-ce que Dieu le sait? Est-ce que vous croyez qu'il sait comment il faut faire, etc.? C'est ça le Dieu du ciel. Le psaume 23, c'est dire je veux qu'il me conduise, je veux qu'il me nourrisse. Et comment Dieu nous nourrit-il? Si ce n'est par le lait de la parole, si ce n'est par le pain de la parole, et quand le Seigneur me demande quelque chose, je le vis, je ne le fais pas. Je le vis parce qu'on peut faire les choses sans les vivre. On peut prier sans faire confiance à Dieu. Et combien je voudrais que vous fassiez confiance à Dieu. L'homme qui est béni, c'est l'homme qui a une foi vivante. Il croit ce que Dieu dit. Quand Dieu dit qu'il est le sauveur, il faut pas. Il y a des gens qui disent, moi je suis désolé quand j'entends des fois des chrétiens qui cherchent un sauveur. Mais est-ce que Jésus est déjà le sauveur? Franchement, il y a longtemps en plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est le sauveur. Il est venu sur la croix pour être notre sauveur. Il est venu sur la croix pour être notre berger. Et quand Ésaïe prophétise, il a dit, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec vous. Ah, si Dieu pouvait être avec moi. On entend ça. Que de fois on entend ça. Ah, si Dieu pouvait être avec moi, des chrétiens. Mais je leur dis, mais Dieu est avec vous. Ah, si Dieu pouvait dire, comme dans l'Ancien Testament, quand il a dit à Gédéon, quand il a dit à Josué, je suis avec toi, je serai avec toi. Ah, si Dieu pouvait me le dire. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce qu'il y a un texte dans le Nouveau Testament où on peut s'identifier cette promesse? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que Dieu le dit? Hébreux 13. Le problème, c'est que les gens ne lisent pas la Bible ou ne lisent plus la Bible et ils n'arrivent pas à croire ce qui est écrit. Oui, Dieu l'a dit à Gédéon. Oui, Dieu l'a dit à Moïse. Oui, Dieu l'a dit à Josué et à quelques d'autres encore. Mais Dieu le dit à toute l'Église. D'ailleurs, il n'a pas dit à un moment donné, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Bon, c'est quand même sérieux. Hébreux 13, verset 5. Quand Dieu a dit quelque chose, c'est pour nous, mes frères et sœurs. Et la foi, c'est le croire. Ces choses ont été écrites afin que si vous croyez, vous ayez la vie. Hébreux chapitre 13, c'est pas la partie du verset 5 qui nous intéresse, mais on peut le lire quand même, ça peut faire du bien à quelqu'un. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu, regardez bien ce qui est écrit, Dieu lui-même a dit. Ça pourrait ne pas être écrit, ça. Vous êtes d'accord? Pourquoi c'est écrit? Pour qu'on comprenne bien que ce n'est pas un homme qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit, comme dans le jardin d'Éden. Dieu a dit. Et vous connaissez celui qui s'est approché, qui a dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Alors, quelle voix écoutez-vous? Est-ce que vous écoutez ce que Dieu a dit ou est-ce que vous écoutez la voix de l'ennemi qui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez, j'ai vécu une expérience, j'étais pasteur ici depuis un an ou deux, et j'avais donné un conseil à une femme, un conseil qui était biblique. Je ne pouvais pas me tromper. Je ne pouvais pas, c'était d'une simplicité enfantine. Et la femme, elle revient le dimanche après, elle me dit, monsieur Rouge, votre conseil, je ne l'ai pas suivi. Parce que j'ai été voir quelqu'un d'autre pour avoir un autre avis. Et lui m'a dit de faire l'inverse. Ah, je dis, ah bon? Et c'est qui que vous avez été voir? Eh bien, c'est mon mécanicien. Ah bon? Mais c'est vrai, hein, c'est vrai, ça fait. Il est chrétien? Non. Ah, mais écoutez, vous choisissez. Choisissez. Par contre, en voiture, moi, je ne me demandais rien. Mais voyez, cette femme, elle ne voulait pas entendre. Mais c'est vrai, hein. Elle voulait pas entendre. Elle a été voir l'inconverti pour avoir un conseil spirituel. C'est pour vous dire combien il y a des chrétiens. C'est comme moi, vous voyez, si pour ma santé, j'allais voir le carrossier du côté à côté. Vous voyez, j'ai un problème aux yeux, dont le carrossier, il soigne un peu là, les phares des voitures. Non, mais il y a un problème quand même. Et j'ai dit à cette sœur, écoutez, cette personne, j'ai dit, écoutez, faites ce qui vous plaira. Dieu a dit, ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Et il y a des gens qui volontairement préfèrent écouter « Dieu a-t-il réellement dit ?» C'est écrit dans les Corinthiens, quand Paul d'ailleurs se fait du souci pour les Corinthiens, il leur dit « Mais j'ai peur que vos cœurs ne se détournent de la simplicité de Christ. » Et il dit « De la même manière que Satan séduisit Ève par ses ruses, je crains. » Et c'est par une question. Je vous ai posé des questions que Jésus pose, mais le diable aussi il s'est posé des questions. Dieu a-t-il réellement dit? Eh bien, nous lisons dans Hébreux 13, verset 5, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Ça, c'est adressé à tous les chrétiens de l'histoire de l'Église. Vous le croyez, mes frères et sœurs? C'est ça la foi, je ne craindrai rien. Le Seigneur est mon aide. Et d'ailleurs, David l'exprime dans le psaume 23 que nous avons partagé ce matin. Le Seigneur est mon berger, je ne craindrai rien. C'est ça la foi. Bien sûr que je traverserai des moments difficiles. On le sait tous, des moments difficiles, mais aussi des moments très faciles. Est-ce que Dieu nous donne des moments bénis? Est-ce qu'il y en a des verts pâturages? Est-ce qu'il y en a des eaux paisibles? Est-ce qu'il peut y avoir des moments où la coupe déborde, où il restaure notre âme? Enfin, quand on lit la Bible, il y a quand même énormément de bénédictions pour les gens qui se confient en Dieu. Le problème, c'est quand c'est nous-mêmes qui devenons notre propre berger, que les choses s'aggravent. Et après, on a le toupet de dire, oui, si Dieu, je ne comprends pas, Dieu. Écoutez, il faudrait peut-être se poser la question d'abord, est-ce que vraiment j'accepte la direction de mon berger? Est-ce que j'accepte la nourriture de mon berger? Est-ce que j'accepte de me réfugier dans sa présence? Parce que la Bible dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et ce psalmiste se dit, mais il est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur, il me protégera à l'ombre de ses ailes. Et bien sûr que si une brebis s'affole, s'amène, se plaît à s'éloigner. Il y a des brebis qui s'éloignent. Je parlais ce matin de ma grand-mère qui était bergère, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. On discutait, on allait la voir dans le champ, tout ça, j'étais tout petit moi. Je me rappelle, et elle jetait tout le temps un œil sur le troupeau. Elle avait ses deux chiens bergers à côté, et moi je ne voyais pas parce que j'étais petit. Et puis tout d'un coup, elle disait un chien, comment ça faisait? Vas-y! Et le chien, il partait en courant, il allait chercher une brebis qui s'était éloignée, et il la ramenait. Je dis, mais vous vous rendez compte, c'est magnifique ça. C'est magnifique cette affaire. Elle les voyait qui s'éloignaient. Mais s'il y a une immense vérité dans cette image, il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Le Seigneur nous compare à des brebis. Vous êtes d'accord? Mais les brebis suivent le berger naturellement, par instinct. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous ne suivons pas le berger par instinct. Il faut que nous utilisions notre volonté. Est-ce que vous imaginez une brebis assise sur un caillou au bord d'un chemin, une patte sur la bouche en train de dire « Oui, le berger veut me conduire dans tel pâturage, mais il faudrait que je discute avec les copines pour savoir si ce pâturage est bon, est-ce qu'il ne veut pas nous jouer un sale tour, est-ce qu'il ne nous conduit pas dans un endroit ?» Bon. les brebis n'en sont pas là. Elles ne calculent pas, elles obéissent par instinct. Dieu nous compare à des brebis, mais nous quand même, nous avons autre chose, nous avons une volonté. Et ce que les brebis font par instinct, nous, nous devons le faire avec notre volonté et notre obéissance. C'est-à-dire que nous devons faire confiance. Quand Dieu dit, tu n'as rien à craindre, je te conduirai, la seule chose que je te demande, fais-moi confiance. Comment maintenant, parce que la foi, c'est la confiance. Moi, il m'a fallu traverser une épreuve terrible où j'étais en train tout le temps de m'attraper avec les uns, avec les autres, dans une situation assez délicate. Et j'étais en train de lire « Combat, le bon combat de la foi ». C'est écrit, ça. Quand on est pasteur, on se sent interpellé par ce verset, parce que ça écrit dans une épître pastorale où un pasteur dit à un autre pasteur « Combat, le bon combat de la foi ». Et moi, je lisais « Mais tu vois, Seigneur, je combats le bon combat de la foi ». Et le Seigneur m'a interpellé « Mais non, ce n'est pas le combat de la foi, c'est le combat de l'incrédulité que tu mènes. Parce que le combat de la foi, c'est le combat de la confiance. » Et j'ai pris, comme on appelle communément, une claque ce jour-là. Mais ça m'a touché, parce que je me suis rendu compte que mes jeûnes, mes prières, parce que des fois on a l'impression que parce qu'on jeûne, en plus, quand on jeûne, des fois on a tendance à penser qu'on est plus spirituel que les autres. Vous vous rappelez ce gars dans la parabole là, hein, qui était dans le temple, et il jeûnait, et il se comparait à un autre qui était là, un publicain, et Jésus c'est lui. Jésus, il se persuadait qu'il était juste, et il était là en train de prier, « Je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, moi je jeûne, moi je prie, moi je donne ma dîme, tatati et tatata. » Enfin, il se persuadait qu'il était juste. C'est ce qu'on attend déjà, nous, qui jeûnent, qui prient, qui donnent leur dîme, etc. Mais voyez, on peut le faire sans obéir, sans faire confiance à tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Le combat de la foi... C'est pas compliqué. Seigneur, je te fais confiance. Tu t'en occupes. D'autant plus qu'il a promis de s'en occuper. Je m'en occuperai. Le Seigneur lui-même a dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Vous avez vu le nombre de fois où les Hébreux dans le désert, eh oui, le Seigneur nous abandonne, et le Seigneur nous oublie, et pourquoi on en est là? Vous croyez que c'était à la gloire de Dieu tout ça? Vous croyez que c'est un troupeau en bonne santé, quand les gens disaient « Oui, le Seigneur, il prend pas soin de moi, il m'a oublié. » Vous croyez que Dieu vous oublie? Est-ce que vous pensez? C'est nous qu'on oublie. C'est nous qu'on s'éloigne. Mais lui ne nous oublie pas. Il a promis que nul ne nous ravirait de sa main. Mais nous, on peut se décrocher de sa main. On peut la décrocher, la main de quelqu'un. On va terminer avec deux lectures pour comprendre combien un homme est béni lorsqu'il se confie en Dieu. Dans Jérémie, Jérémie 17, verset 7. On va lire le verset 5. Vous avez vu que Dieu, dans la Bible, met en opposition certaines attitudes. Il y a des mots qui sont très forts. Quand c'est en plus dans la bouche de Dieu, c'est quand même pour nous faire réfléchir. Au verset 5, Dieu parle encore. Cette expression, pour moi, elle est très sérieuse. Ça nous rappelle toujours que la Bible, ce ne sont pas des hommes, quel que soit leur prénom, qui parlent. La Bible, c'est Dieu qui parle. Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Quand un homme se confie dans ses prières, il ne se confie pas en Dieu, je regrette. Mais voyez comment ça peut être un petit peu ambigu comme situation. Qui prend la chair pour appui, qui détourne son cœur de l'Éternel, il est comme misérable dans le désert, il ne voit pas arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme. Voyez, maudit soit l'homme, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, voyez, et dont l'Éternel est l'espérance. S'il y a bien quelque chose qui caractérise quelqu'un qui vit dans la foi, il a de l'espérance. Je vous pose une question, est-ce que vous avez de l'espérance? Est-ce que vous espérez en Dieu vraiment? Eh bien, vous avez une vraie foi. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Amen. C'est pas compliqué. Où un homme il est maudit, ça, alors le mot est fort, mais envers compte, où un homme il se fait du mal, le mot maudit, on peut le comparer au mot mal, malheur, malheureux l'homme. Vous voyez? Et le mot bénédiction, on peut dire béni, bienheureux. Malheureux l'homme qui se confie dans la chair, un homme qui est tout le temps en train de se débattre, il est malheureux. Il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu combatte pour lui. On m'a raconté plusieurs fois l'histoire d'un homme qui en Afrique était en train, c'était dans une école biblique, où un homme était en train de se noyer, un étudiant était en train de se noyer. C'est l'histoire vraie. Un jeune homme, ils avaient pris un après-midi pour se détendre un petit peu, et il y avait le pasteur qui en même temps était surveillant de Méniade, qui était là, à 50 mètres de ce garçon qui était en train de se noyer, et il ne bougeait pas. Et les étudiants, ils étaient scandalisés. Le gars était en train de se noyer, et le pasteur était sur la plage, en train de regarder. Les élèves, ils étaient scandalisés. Et quand le gars, il a coulé, le pasteur, il est parti en courant, il a ramené le gars, et il l'a sauvé. Et les élèves lui ont dit, mais vous rendez compte, mais vous vous rendez pas compte, qu'est-ce que vous avez fait, ce gars il a failli mourir, et vous avez failli faire en sorte qu'il se noie, vous auriez pu aller le chercher quand il se débattait et tout. Et le pasteur il a dit, si j'avais été le chercher pendant qu'il se débattait, il m'aurait entraîné avec lui au fond. Et c'est vrai cette affaire, que des gens se sont noyés en essayant d'aider des jeunes, ils les ont entraînés avec eux au fond. Et c'est exactement pareil avec Dieu. Tant que vous vous débattez, Dieu ne combat pas. Et dès que vous arrêtez de combattre, Dieu combat. Quelqu'un me disait dernièrement, mais Jacob, il a lutté avec Dieu. Quand est-ce qu'il a été béni, Jacob? Quand il luttait avec Dieu, quand il n'a plus pu lutter. Quand est-ce qu'il a été béni? Quand il y a des mille anges. Après, il a été béni. Mais tant qu'il luttait, il n'y a pas eu la bénédiction. La bénédiction, elle est venue une fois qu'il n'a plus pu se battre. Et là, Dieu l'a béni. Et quand nous arrêtons de nous battre, de nous débattre, quand nous arrêtons de combattre contre la chair et le sang pour faire un cours, eh bien, le Seigneur, il combat pour nous. C'est pour ça que Dieu l'appelle le bon combat de la foi. Oui, il est béni, l'homme qui se confie en Dieu. Et je vous encourage à vous confier en Dieu. Tout simplement, Seigneur, je te fais confiance. Je ne sens rien, je ne vois rien. Mais tu as dit que tu ne m'abandonnerais pas, que tu pourvoirais. Alors je vais le faire. La foi, ça veut dire que c'est Dieu qui va le faire. Alléluia. La confiance, c'est dire, moi je ne m'en occupe pas, tu t'en occupes. Heureux l'homme, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et je termine avec un autre livre, Ésaïe. Hein, c'est un peu mieux. Ésaïe 40. Y a-t-il des Ésaïe dans l'église? Hein? Ésaïe 40. C'est pareil. Vous voyez, dans un contexte de remise en question, dans un contexte, c'est pourquoi tu m'abandonnes. Vous voyez, le peuple d'Israël a toujours été comme ça. L'église ressemble beaucoup au peuple d'Israël. Ésaïe 40, verset 27. Voilà, ça c'est des questions que Dieu pose, mais parce que ce sont des questions que le peuple de Dieu posait. Ça ne plaisait pas à Dieu. Regardez, Ésaïe 40, verset 27. « Pourquoi, dis-tu, Jacob ?» Vous pouvez mettre votre prénom au cas où ça se présenterait. « Pourquoi, dis-tu, Israël ?» On pourrait mettre l'Église. « Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. » Vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé. Et pourquoi Dieu n'agit pas et il m'oublie? Et là, c'est Dieu qui pose une question. Deux, d'ailleurs. « Ne le sais-tu pas ?» Ne l'as-tu pas appris? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous l'avez appris ce qu'on va lire? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents, c'est-à-dire ceux qui sont dans la force physique totale, se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Et ça aussi, cette expérience, j'ai pu la faire quand j'étais en Polynésie, que je lisais ce texte et je disais, mais Seigneur, tu dis que ceux qui se confient en toi, ils sont comme les aigles, mais moi, j'ai rien d'un aigle. Et je me confie en toi. Et le Seigneur m'a dit, non, tu te confies pas. Tu pries. C'est pas parce qu'on prie qu'on fait confiance à Dieu. Vous me suivez? Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. C'est comme ça. Vous faites confiance à Dieu, que vous soyez dans la voiture, que vous soyez au magasin, à la banque, dans votre lit, dans votre maison, dans le jardin. C'est un état de cœur. Quand vous faites confiance à Dieu, vos forces se renouvellent. Bien sûr, tant mieux si quand dans la prière, en même temps, on fait confiance à Dieu. Ça devrait être une évidence. Mais nos forces, elles peuvent se renouveler tout le long de la journée en faisant confiance à Dieu. Et vous vous rappelez quand justement dans Ésaïe, Dieu dit, mais c'est dans le calme et la confiance que sera votre force et vous ne l'avez pas voulu.
On a dit, on prendra notre course à cheval, voilà. On va encore chercher des moyens. Et Dieu dit, non, il n'y en a pas de moyens. Il n'y a qu'un moyen, c'est la confiance. Et on parlait d'agneaux et de moutons, mais Jésus va encore plus loin puisqu'il nous compare à des petits poussins. Et il dit, mais combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et c'est pareil, vous ne l'avez pas voulu. Est-ce que cet après-midi vous le voulez? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous l'avez appris? Est-ce que vous l'avez appris que si vraiment Jésus, votre berger, vous nourrit, vous conduit, vous protège, vous soigne, vous terminerez votre course en disant oui, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien, car Jésus sera avec moi. De toute façon, le problème c'est que Jésus sera toujours avec nous. Toujours. Il y a des gens qui se disent, mais on ne peut pas le fuir. Il faut chercher Dieu dans le sens où il faut améliorer sa communion avec Dieu, mais en vérité, on ne peut pas fuir Dieu, puisqu'il est partout. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens qui disent, je cherche Dieu, oui, mais à la limite, il est partout. Alléluia. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous l'avez appris? Est-ce que vous voulez, est-ce que nous voulons le réapprendre? Est-ce que nous voulons renouveler cette vie en Dieu? Est-ce qu'il va trouver la confiance, le Seigneur, quand il va revenir? Cet après-midi, est-ce qu'il trouve la confiance dans votre cœur? Vous lui faites confiance maintenant? Est-ce que dans 5 minutes, lorsque le culte sera fini, vous lui ferez confiance? Est-ce que ce soir, je ne sais pas moi, en train de vous désaltérer, en train de manger, est-ce que quand vous serez dans votre lit, est-ce que vous allez lui faire confiance? Est-ce que demain matin, quand vous allez vous lever, quand le réveil va sonner, vous allez faire confiance? Bon réveil au Seigneur. Est-ce que vous lui faites confiance? La confiance, c'est un état de cœur. Jamais Dieu vous abandonnera. Jamais. Dieu est digne de confiance. On ferme les yeux quelques instants. C'est sérieux, vous devez pouvoir corriger votre tir si vous dites oui, je sais pas, et pourquoi Dieu si, et pourquoi il m'a abandonné, ma destinée, et mon avenir. Si vous faites confiance à Dieu, il est votre berger. Si vous ne lui faites pas confiance, c'est vous qui vous dirigez dans les voies que vous avez choisies. Ne vous étonnez pas si vous êtes dans la crainte et dans la confusion, si vous êtes dans le découragement et le malaise. Mais si vous vous confiez en Dieu, vous êtes béni. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Si vous faites partie de cette catégorie de croyants qui sont toujours dans le malaise, dans le mal-être, dans la confusion, décidez-vous de lui faire confiance entièrement. Je le répète, la foi véritable, c'est la confiance en Dieu sur toute chose. Notre Père, notre Dieu, tu nous dis que toutes ces choses ont été écrites afin que l'on croie et qu'en croyant, on reçoive cette vie. Non seulement tu as souffert au calvaire pour nous donner la vie éternelle, mais tu nous as tout annoncé à l'avance, afin que notre foi puisse être fortifiée. Tu l'as dit que la victoire qui triompherait du monde, ça serait notre foi. Et je te prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs, pour mes bien-aimés qui sont là cet après-midi, afin que nous sortions tous de ce lieu, fortifiés à tous égards, avec cette foi vivante par rapport à tous les problèmes que nous pourrons traverser, à toutes les situations qui vont se présenter. Oui, nous croyons que tu peux faire déborder notre coupe, que nous pouvons avoir, oui, comme on l'a vu tout à l'heure, cette coupe de délivrance, que le bonheur et la grâce peuvent nous accompagner jusqu'à la fin de nos jours. Seigneur, s'il te plaît, fais du bien, aide les amis, les frères et sœurs qui sont dans le doute, dans l'incrédulité, à sortir de ce travers et à faire comme Abraham, qui avait cette pleine conviction que ce que tu promets, tu le promets pour l'accomplir. Seigneur, que ta volonté soit faite et que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus. Amen.